jure et je m'engage à être fidèle à l'État d'Israël et ses lois, à accepter sans condition et sans réserve la discipline de Tsahal et au besoin à sacrifier ma vie pour la défense et la liberté d'Israël. Serment du soldat israélien. D'histoire. Israël est sans doute le seul pays du monde où à tout moment, dans tous les lieux publics, une annonce à la radio peut donner un ordre de mobilisation à des réservistes qui, où ils se trouvent, doivent rejoindre leurs unités dans les heures qui suivent. Constamment sur la brèche depuis 60 ans, l'armée israélienne est sans doute l'armée la mieux équipée et la mieux entraînée du monde. Celle qui, après quatre guerres victorieuses contre ses voisins arabes, a longtemps été considérée comme invincible, jusqu'à l'opération menée l'été dernier au Liban contre le Hezbollah. C'était le premier revers de cette armée qui, depuis sa naissance, le 26 mai 1948. Ce jour-là, un ordre du gouvernement de Tel Aviv avait créé les forces de défense d'Israël, Tzva Hagana l'Israël, plus communément appelé Tsahal. L'armée d'un pays dont Ben Gourion avait solennellement proclamé la naissance 12 jours plus tôt, le 14 mai 1948.
Nous sommes solennellement réunis, nous les membres de l'Assemblée du peuple, représentants des Juifs de Palestine et du mouvement sioniste, en ce jour de la cessation du mandat britannique. En vertu de nos droits naturels et historiques et de la résolution des Nations Unies, nous proclamons la création d'un État juif en la terre d'Israël.
Pierre Razou, bonjour.
Bonjour.
C'était le 14 mai 1948, la naissance de l'État d'Israël proclamé, on vient de l'entendre, à Tel Aviv par son premier ministre, David Ben-Gourion, le même qui, 12 jours plus tard, crée justement l'armée israélienne, Tsahal, à laquelle vous venez de consacrer un livre très objectif qui a été publié chez Perrin, livre dans lequel vous rappelez d'abord que l'histoire de Tsahal a cette particularité, c'est qu'on ne peut pas la comprendre, sans remonter très loin dans le passé, c'est-à-dire au fond à l'Antiquité. C'est une des singularités de Tsahal, au fond, que cette référence constante aux origines bibliques d'Israël et de son armée.
Tout à fait. D'ailleurs, comme on peut le voir, les premières offensives israéliennes lancées. Par exemple, pendant la guerre d'indépendance, donc, ont eu toutes pris pour nom de code des victoires bibliques ou du moins des événements bibliques majeurs. Ce qui est certain aussi, c'est que pour les premiers stratèges israéliens, c'est-à-dire des années 30, 40, fin des années 40, le fait de s'imprégner en fait des événements militaires et donc de l'histoire militaire juive antique, en quelque sorte biblique, leur a permis de remonter aux bases de la stratégie juive, notamment la recherche permanente de la surprise, de mettre en place un système de réserve, car les premiers juifs, à l'époque du temps du roi David que du roi Salomon, puis par la suite avaient créé un système de réserve très performant, et enfin de créer ou du moins de revenir et de mettre en place une véritable stratégie d'insurrection contre l'occupant, donc dans les années 40, l'occupant britannique, et par référence à la période biblique où il s'agissait de l'occupant grec, puis de l'occupant romain.
J'ai appris même, par exemple, que le char Merkava, en fait, c'est une référence au char utilisé dans l'armée, au char de fer de l'armée de Salomon. Il y a aussi les missiles Jéricho, toutes ces références au passé lointain.
Tout à fait.
Et puis alors, que l'on voit aussi dans un passé récent, parce que avant Tsahal, et portant un autre nom, il y avait, vous venez de l'évoquer, il y avait des forces armées israéliennes, il y avait par exemple la Haganah.
Tout à fait, il y avait donc la Haganah qui était en fait la milice d'autodéfense classique juive, qui était également complétée du Palma, qui était en quelque sorte le groupement des troupes de choc de cette Haganah, et à côté de la Haganah, des petits groupes indépendants, notamment l'Irgun et le groupe Stern, beaucoup plus marqués politiquement, chargés des coups de main ou des attentats donc contre l'occupant ou contre les communautés communauté arabe.
Oui, parce que par exemple, l'Irgun est responsable d'un attentat grave qui a profondément marqué les Palestiniens en 1948. C'était effectivement le massacre de 110 Palestiniens dans la ville de Deir Yassine. Alors, toute cette armée, en fait, cette armée de Sahel, c'est le regroupement de l'ensemble de ces forces qui existaient avant 1948. Une armée qui est aussitôt confrontée, d'ailleurs, elle est fondée en mai 1948, elle est aussitôt confrontée à ce qu'on appelle la guerre d'indépendance. En fait, l'indépendance d'Israël est déjà proclamée, mais la guerre d'indépendance est une guerre au cours de laquelle s'élabore une stratégie, vous venez un peu aussi de l'évoquer, mais une stratégie qui va rester pratiquement la même, hein, c'est la rapidité, la mobilité, la surprise, Pierre Razou.
Tout à fait. Donc en fait, faisant le bilan en fait de leur situation matérielle et de leur situation géographique, les stratèges israéliens de l'époque, Ben Gourion en tête, donc planifient ou du moins imposent une véritable stratégie d'offensive préventive pour les troupes israéliennes, de mobilité permanente pour refuser et pour éviter de se faire fixer et déborder sur un point, et également de supériorité aérienne.
Et en portant la guerre chez l'adversaire,
si nécessaire.
À cause de l'étroitesse justement d'Israël, c'est ce qui va se passer justement au cours de l'opération Kadesh lancée contre les Égyptiens en octobre 1956 et justifiée à l'époque par le ministre israélien des Affaires étrangères Abba Eban.
Mr. President, on Monday, October the 29th, the Israel Defense.
Le lundi 29 octobre, les forces israéliennes de défense ont pris des mesures de sécurité dans la péninsule du Sinaï, conformément au droit d'Israël à l'autodéfense. Ces opérations ont pour objet d'anéantir la base militaire à partir de laquelle les unités armées égyptiennes, sous le commandement du colonel Nasser, envahissent le territoire d'Israël en commettant des crimes, des actes de sabotage et en créant une insécurité permanente.
Vous entendez probablement le bruit sourd des bombes qui sont en train de tomber sur Héliopolis. Il est exactement 22h du Caire du 31 octobre 1956. À ce moment, les bombes incendiaires qui ont précédé le lancement des bombes à haut potentiel teintent le ciel du rouge des incendies. Au même moment où, depuis le balcon de ma chambre d'hôtel, j'enregistrais les éléments sonores que vous avez entendus, les premières victimes civiles payaient leur tribut de sang sur le sol d'Égypte.
Et c'était le début de la deuxième guerre israélo-arabe en 1956 qui sera le prétexte à une opération franco-anglaise sur Suez dont nous parlerons dans quelques jours puisque ce sera le 50e anniversaire. On va pas entrer dans le détail de cette opération commencée par les Israéliens, poursuivie par les Français et les Anglais qui ont dû se retirer du canal de Suez à la demande des Soviétiques et même des Américains. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, ce que vous montrez Pierre Razou dans votre livre, c'est qu'à l'époque, les avions israéliens, le matériel israélien, et il le sera encore plus dans les années qui suivent, était français. Le seul allié, le principal en tout cas allié d'Israël à ce moment-là, c'est la France.
Tout à fait. Dès 1952-1954, Israël et la France nouent une véritable alliance stratégique. Et le gouvernement français donc s'engage à défendre Israël et à fournir donc du matériel militaire en quantité très importante aux Israéliens pour des tas de raisons, notamment en termes de d'alliance de revers face à l'Égypte de Nasser, mais aussi pour un petit peu en guise de dédommagement des massacres et des commis pendant la Deuxième Guerre mondiale, ainsi donc du problème de la Shoah pour les Israéliens. Et donc nous une véritable alliance qui se concrétisera notamment pendant la guerre de 56 par l'envoi de deux escadrons de chasse d'avions français avec des pilotes français en Israël, dans le plus grand secret.
Oui, on ne l'a su que 50 ou 40 ans plus tard.
On ne l'a su que 40 ans plus tard pour défendre en fait littéralement l'espace aérien israélien et permettre à l'aviation israélienne de mener ses propres combats.
En tout cas, pour Tsahal, c'est vraiment un test, cette guerre de 56, cette guerre contre l'Égypte, et qui a permis de vérifier une organisation très particulière. Tsahal, c'est vraiment une armée qui n'est pas organisée comme les autres. D'abord, la rapidité de sa mobilisation, de la mobilisation de ses réservistes, Pierre Razou.
Tout à fait, puisqu'en fait, la particularité de l'armée israélienne, c'est d'être fondée à la fois sur un petit noyau de forces permanentes qui représente à peu près 10% de son effectif total et qui sont alimentées à la fois par les volontaires, enfin par les militaires professionnels et par les conscrits, donc conscrits qui effectuent à l'époque un service militaire de 3 ans. aussi bien hommes que femmes, même si les femmes ne seront jamais engagées au combat et n'ont pas accès aux unités combattantes. Et à côté de cela, une vaste réserve mobilisable en 72 heures et qui représente donc à peu près 90% du volume de force et qui doit permettre en fait de lancer la contre-offensive ou la contre-attaque pour repousser toute action et toute offensive, toute agression éventuelle.
Et avec des soldats qui, comme les Suisses, gardent leur pactage militaire quand ils ne sont pas en caserne.
Tout à fait, donc avec des soldats qui gardent l'ensemble de leur équipement individuel et de leur armement individuel chez eux. Seul le matériel lourd et la logistique étant stockés dans d'immenses bases et de grands dépôts à la sortie des villes ou près des villes.
Et des soldats de toute origine. Vous rappelez aussi, c'est important, que cette armée de Sahal, elle a vu venir des Juifs venus de tous les pays du monde et elle a une importance considérable dans l'intégration au fond de ces immigrés que sont la majorité des Israéliens.
Tout à fait, puisqu'en fait l'armée israélienne, donc Tsahal, est quelque part consubstantielle de la société israélienne elle-même et permet un véritable creuset d'intégration qui permet donc aux Juifs appliquant leur droit à la loi au retour de s'imprégner et donc de s'intégrer totalement dans la société. Et à l'heure actuelle encore, et c'est bien le problème justement des événements qui se sont passés l'été dernier, l'armée reste le dernier élément de cohésion nationale au sein du pays.
Vous avez dit des Juifs parce qu'effectivement ce sont les seuls qui sont astreints au service militaire.
Même si les Druzes, les Circassiens et certaines minorités sont volontaires, sur volontariat, peuvent accéder à l'armée.
Et une armée beaucoup plus disciplinée qu'on le croit. Je crois que c'est Isaac Singer qui disait « Le yiddish est la seule langue du monde dans laquelle on ne donne pas d'ordre ». Eh bien, en réalité, c'est une armée très disciplinée et aussi qui suit ses chefs. Je dis bien qui suit parce que, vous le montrez aussi, ce sont des officiers qui prennent des risques, qui sont toujours en avant dans les offensives.
Tout à fait. Donc le principe même en fait de l'armée israélienne, enfin les deux des principes majeurs sont que les officiers ou les sous-officiers, enfin l'encadrement est systématiquement à la tête de ses troupes et monte à l'assaut en tête de ses positions, ce qui engendrera dans les différentes guerres un taux de perte très très important parmi les officiers. Et le second principe, c'est que on n'abandonne jamais ni les blessés ni les dépouilles des morts sur le territoire adverse, et donc tout doit être mis en cause en place pour aller les rechercher.
Et dans une armée qui en 1967 allait remporter le plus grand de ses succès avec la guerre des six jours et la prise de la partie arabe de Jérusalem, où entraient les parachutistes du colonel Mordechai Gour en juin 1967.
Nous sommes installés sur la colline qui fait face à la vieille ville, où nous allons bientôt entrer. La vieille ville de Jérusalem dont nous rêvons. Nous serons les premiers à y pénétrer. Les chars avancent et ils entreront par les portes de la ville. Avancez, avancez vers la porte des lions. L'étape finale aura lieu là-haut, sur la place.
C'est exactement au pied du mur des Lamentations, qui marque le lieu où s'est dressé le temple de Salomon, qu'en fin de matinée, le rabbin Goren, aumônier général des forces armées, a soufflé sur le chauffard la corne de bélier, dont le son aigu se fait entendre dans les synagogues lors des plus importantes solennités.
C'était les soldats de Sahal en chantant au pied du mur des Lamentations. C'est vraiment la bataille, la guerre des six jours, qui a contribué le plus au prestige de cette armée israélienne. C'est sa plus grande victoire, Pierre Razou.
Oui, tout à fait, puisque donc en six jours, les forces armées israéliennes parviennent à récupérer donc la vieille ville de Jérusalem ainsi que la Cisjordanie, à récupérer la bande de Gaza ainsi que la totalité de la péninsule du Sinaï.
Il ne s'agit plus de défense, là, il s'agit
donc, c'est carrément une guerre de conquête. Ouais. C'est tout à fait, c'est une guerre en fait une action préventive qui se transforme très rapidement en guerre de conquête. Conquête.
Pour la prévention, c'était le prétexte.
C'était le prétexte, tout à fait. C'était lié aux facteurs nucléaires, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard.
Alors aussi, une guerre, bon, ce prestige est international. D'abord, on se dit, bon, ce petit pays qui est menacé, c'est vrai, par tous ses voisins, il l'a toujours été, un seul d'entre eux a reconnu son existence, mais en même temps aussi, à ce type de guerre, c'est une guerre de chars, et dans l'ensemble, si on peut dire d'une guerre qu'elle est propre, c'est une guerre propre. D'ailleurs, c'est une notion très importante à laquelle était attachée de Saal, en tout cas pendant longtemps, la pureté des armes, c'était l'expression, je crois, d'un leader sioniste qui s'appelait Tabankin, et c'est toujours la volonté de rester une armée pure.
Oui, tout à fait. Donc c'est ce qui caractérisera, ou du moins c'est ce qui permettra à l'encadrement et à l'institution militaire de justifier à la fois auprès de l'opinion publique israélienne et de l'opinion publique internationale ces actions souvent préventives et ces attaques donc contre les armées arabes. Il n'empêche que donc la réalité est très différente et que sur le terrain de nombreux cas d'exaction dans chacun des camps ont existé et ont été pointés du doigt, notamment parce que ce que l'on appelle les nouveaux historiens en Israël à l'heure actuelle.
Et une armée aussi qui a de nouveaux alliés. Alors, c'est ce que l'on croit communément, c'est l'Amérique, la France ayant dénoncé ces offensives israéliennes de 67, l'Amérique arrive. Vous, votre livre révèle une chose, Pierre Razou, c'est qu'en fait, l'alliance avec les États-Unis était antérieure à la guerre des six jours.
Oui, tout à fait, c'est l'une des images d'Épinal, si l'on peut dire, ou de une part du mythe, du fait que la guerre des six jours aurait été le déclencheur qui aurait contraint les Israéliens en fait à changer d'alliance, à ne plus se tourner vers les Français, mais à se tourner désormais vers les Américains. Or en fait cette alliance stratégique arrive bien avant la guerre des six jours, puisque dès 1963, en fait dès la fin de 1962 et la fin de la guerre d'Algérie, le général de Gaulle fait clairement comprendre à ses homologues israéliens et notamment au premier ministre Ben Gourion que l'alliance stratégique française a vécu, même si la France clairement se portera toujours à côté des Israéliens en cas d'agression contre le territoire israélien pour les défendre, mais que la grande alliance stratégique, notamment celle qui a permis la fondation de la coopération nucléaire, etc., a vécu. Donc dès 1963, les Israéliens se tournent vers les États-Unis, et à partir de 1964, l'administration du président Johnson noue une véritable alliance stratégique avec Israël, elle aussi secrète ou en tout cas couverte, qui va se manifester par la livraison importante de matériel, de missiles, de chars et d'avions, et par une aide technique très importante dès 1964.
Et ce qui ne va pas empêcher quand même la surprise provoquée en 1973 par une offensive égyptienne et syrienne, alors que le gouvernement et l'armée israélienne étaient au courant des préparatifs de ces deux pays. C'est le début de la guerre du Kippour. France Inter, Frédéric Bomberger, le 9 octobre 1973.
Golda Meir savait, Moshe Dayan savait, le gouvernement et l'état-major de Jérusalem savaient que les Égyptiens et les Syriens préparaient une attaque pour établir des têtes de pont en territoire occupé. C'est la confidence que vient de faire un diplomate occidental, le ministre israélien de la Défense.
L'état-major égyptien fait savoir que ses armées occupent El Kantara. Philippe Rochaud de Beyrouth.
Damas se contente de donner des informations sur les combats qui se déroulent sur le front sud et de rappeler que 35 avions israéliens ont été abattus pendant la journée. Et puis, Radio Damas a relancé tout à l'heure de nouveaux appels aux armées israéliennes.
Aux soldats israéliens, tu es aujourd'hui sous les armes, ta femme aussi pourrait l'être aujourd'hui ou demain, ainsi que ton fils ou ton frère. Il en est de même pour celui qui porte les armes depuis 25 ans, et qui le fera peut-être jusqu'à la fin de ses jours. Le fait est que tu es poussé à réaliser des objectifs auxquels tu ne crois pas. Des objectifs inhumains et injustes que refuse la...
Et c'était la propagande de Damas en octobre 1973. Une petite parenthèse, pardon à notre ami Dominique Bomberger, que j'ai appelé Frédéric Bomberger, c'était Dominique bien sûr. Alors là, la guerre du Kippour, c'est vraiment le mythe de l'invulnérabilité d'Israël qui en prend un coup. Même si Israël redresse la situation grâce à une contre-offensive extraordinaire du général Sharon, mais là, pour la première fois, on l'a vu hésiter, surprise par une attaque, et même avec perdant des avions, perdant même du terrain.
Oui, et la guerre de Kippour constitue très clairement le premier véritable échec, au moins pendant la première phase des opérations, le premier échec cuisant de Tsahal, car pendant les six années qui ont suivi la guerre des six jours, les généraux israéliens, auréolés de leur succès, se laissent aller au péché d'orgueil, et donc laissent en fait leur outil militaire se dégrader, mais surtout ne revoient leur propre stratégie d'une manière totalement défensive et qui n'est plus du tout dynamique, et se laissent en fait dicter les combats par leurs adversaires qui, eux, ont tiré les leçons de la guerre de 67.
Peut-être s'entend-il aussi sur la bombe, parce que vous le révélez aussi, enfin on le savait, l'armée israélienne n'a jamais reconnu, mais elle dispose de la bombe atomique.
Tout à fait, et elle dispose très certainement de la bombe atomique depuis probablement dans les semaines qui précèdent la guerre des six jours en 1967, ce qui permet d'ailleurs d'expliquer le fondement profond du déclenchement de cette guerre, mais j'en parle longuement et dans mon ouvrage. Toujours est-il qu'à la veille de la guerre du Kippour en 1973, l'armée israélienne dispose d'au moins 8 bombes nucléaires, et c'est justement la raison pour laquelle les dirigeants israéliens, Golda Meir en tête, suivis par Moshe Dayan, ne pensent pas un instant que les dirigeants arabes, tant au Caire qu'à Damas, qui savent pertinemment qu'Israël a la bombe, prendront le risque de les attaquer, sachant qu'ils s'exposent à des ripostes et à des représailles massives en cas de victoire militaire.
D'ailleurs, il n'y a plus jamais eu de conflit direct entre des armées d'un État arabe voisin et Israël. Ceci explique peut-être cela, Pierre Azou. En revanche, on voit apparaître un nouveau type de conflit, hein, non plus contre des armées arabes, mais cette fois-ci contre des pierres de Palestiniens, contre aussi l'action terroriste de certaines organisations, ce qui va provoquer des ripostes israéliennes et nuire à la réputation de cette armée, qui aura du mal à rester aussi pure que le voulait cet officier de Tsahal pendant l'intifada.
Le but était qu'on reste être humain. Et le problème, c'est comment on reste une armée pure. Avec cette intifada, on peut arrêter après une semaine. On met des chars, on tire, il y a 10 000 morts, et c'est terminé. Mais nous, une armée juive, que les parents ils sont passés à l'Holocauste, on ne peut pas le faire. Si aussi il y avait une horde du gouvernement de tirer sur des enfants, on ne tire pas.
Bonsoir. 5 jours de violence en Israël et dans les territoires palestiniens. Les hélicoptères israéliens ont tiré sur la ville de Gaza.
France Inter.
Les images que l'on voit, les gens, les blessés, les sirènes d'alarme, les sirènes des ambulances, le cri des mamans dont les enfants ont été tués, ont été blessés, vous déchire le cœur. Nous ne pouvons rien faire, nous sommes devant un arsenal militaire. Nous sommes devant des blindés, des missiles, des mitraillettes. Nous avons des pierres seulement.
Le témoignage de cette Palestinienne, Pierre Razou, il cadre pas du tout à ce que disait cet officier, encore très attaché à l'idée de guerre propre. Là, c'est vrai qu'on s'est engagé dans une guerre sale, parce que il est très difficile, évidemment, à Tsahal, de faire la part des choses entre des gens qui déposent des bombes et puis des civils. Et puis, comment réagir contre ce type de guerre? On semble que Tsahal, depuis plusieurs années, depuis longtemps, semble désemparé devant tout ça.
Tout à fait. Et paradoxalement, pendant cette période-là, l'armée israélienne se trouve confrontée un petit peu au même paradoxe ou au même dilemme que l'armée française au tout début des années 60, lorsqu'on lui demande d'être à la fois le fer de lance de l'Alliance Atlantique contre les Soviétiques, c'est-à-dire en fait d'entretenir une armée conventionnelle très forte, capable donc de rivaliser de manière tout à fait conventionnelle sur le terrain contre des offensives blindées adverses, et en même temps de mener une guerre insurrectionnelle, en l'occurrence pour la France en Algérie, là pour les Israéliens donc dans les territoires occupés, voire au Liban, pour déloger donc des mouvements, des milices terroristes, des combattants palestiniens.
Et ça depuis longtemps, faut rappeler les massacres de Sabra et Shatila perpétrés sous les yeux, pas par Tsahal, mais sous les yeux de Tsahal en 82, massacre de Kana au Liban en 96, cet enfant palestinien tué dans les bras de son père, devant d'ailleurs toutes les caméras du monde, tout ça évidemment a beaucoup choqué. Ce n'est plus une armée qui peut dire qu'elle fait une guerre propre, mais ce n'est plus non plus une armée qui peut prétendre être invulnérable. On l'a vu cet été, justement l'été dernier, dernier, lorsque, après les opérations de Tsahal au Liban, avec le son à cause de l'enlèvement, il faut le rappeler, de trois de ses soldats par le Hezbollah. France Inter, Frédéric Barrère, le 1er septembre dernier.
Ma liberté de Georges Moustaki, chanté en hébreu. Mordechai a perdu son fils il y a 12 ans au sud Liban. Son fils s'appelait Oudi, comme l'un des soldats prisonniers du Hezbollah. Au-dessus de l'immense estrade, il y a les portraits des trois soldats avec cette phrase en lettres rouges. Nous ne laissons jamais de soldats sur le champ de bataille. Le général Ouzi Dayan est présent, il fait partie des hauts gradés qui contestent la façon dont la guerre a été menée. Les amis de Ron Arad, le pilote, sont venus. Ils attendent depuis 20 ans. Et pour Godvasseur, Regev et Shalit, nous n'attendrons pas 20 ans. On a fait une guerre juste, mais on ne l'a pas bien menée. Et ce qu'on dit au gouvernement, c'est que cette guerre n'est pas finie. Il faut qu'on soit mieux préparé pour la prochaine guerre. Jérusalem, Frédéric Barrère, France Inter.
Le gouvernement israélien contesté par ses propres généraux, ça aussi c'est assez nouveau, en tout cas publiquement, Pierre Razou. On est vraiment loin de l'armée de la guerre des six jours.
Oui, même si un tel déballage de critiques a déjà existé dans le passé, notamment après la guerre du Kippour et après justement les massacres de Sabra et Shatila. Mais là, ce qui est sans doute nouveau, c'est à la fois l'ouverture des médias israéliens qui laissent au monde entier voir donc justement ce déferlement de critiques et en même temps le volume massif de critiques qui viennent aussi bien de généraux, de réservistes que de l'opinion publique qui remettent en cause la manière dont cette opération et dont la stratégie a été menée, stratégie inadaptée.
On a entendu ce général dire à la fin de son intervention, nous serons mieux préparés pour la prochaine guerre, comme si la paix était absolument impossible. Abba Eban d'ailleurs disait dans les années 60, je crois que la paix n'était qu'une période plus ou moins longue entre deux guerres, comme si on pouvait pas faire autre chose, comme si on pouvait pas imaginer la paix, autrement dit comme si Tsahal allait rester sur la brèche comme ça pendant des années et peut-elle le rester d'ailleurs sans un jour subir cette fois-ci non pas un revers mais une défaite.
Je crois que la problématique actuellement, c'est que de ce que l'on sait et de ce que l'on voit en Israël actuellement, une part de plus en plus importante de l'opinion publique souhaite négocier une paix avec ses voisins, négocier une paix avec les Palestiniens. Le problème, c'est qu'ils veulent négocier en position de force. Et actuellement, l'armée israélienne se trouve en posture de faiblesse. Et donc, pour de nombreux Israéliens, il faut une nouvelle guerre ou du moins de nouvelles opérations militaires, par exemple de nouveau contre le Hezbollah ou contre la Syrie, voire contre l'Iran, pour pouvoir se prévaloir d'une victoire militaire et donc pouvoir retourner à la table des négociations.
Mais est-ce qu'elle peut, c'est la question que vous posez, est-ce qu'elle peut encore imaginer gagner indéfiniment des conflits ou en tout cas ne jamais les perdre?
Je pense que c'est comme une équipe de football, on ne gagne jamais tous les matchs, etc. Mais je pense qu'elle a les moyens, en tout cas matériels, de continuer à s'imposer face aux armées conventionnelles.
Merci Pierre Razou. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Tsahal, nouvelle histoire de l'armée israélienne » récemment publié aux éditions Perrin, écrit encore, je le répète, avec beaucoup d'objectivité, ce qui est difficile avec des sujets comme cela. À lire également « Géopolitique du sionisme, stratégie d'Israël » de Frédéric Ancel, qui vient de paraître chez Armand Collin, et « La guerre ratée d'Israël contre le Hezbollah » de Renaud Girard, publié également chez Perrin. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire « Tsahal » de Claude Lanzmann, édité en VHS chez René Château Vidéo. Je signale aussi la diffusion ce soir sur France 2 à 23h du documentaire.